Pendant que les enfants nous quittent, soyez les bienvenus en ce lieu où le Seigneur nous a déjà précédés, où il a conduit nos pas, où il nous a protégés pour nous retrouver en ce lieu et où nous avons pu déjà le remercier, lui rendre grâce et gloire par ses musiques, par ses chants, par ses louanges, par notre adoration. Et nous voulons maintenant aussi poursuivre notre rencontre, ce partage, et justement partager la parole de notre Seigneur. Alors j'aimerais sur cette rencontre, et peut-être la semaine prochaine, nous laisser interpeller par ce verset. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Et là, le sujet sur lequel nous allons nous arrêter, c'est les anges. Et j'ai intitulé cette réflexion de notre rencontre « Ange, mon ami ». Alors Dieu tout-puissant, Dieu qui a tout créé, Dieu qui est omniprésent, omnipuissant, omniscient, qui peut tout, partout, en tout lieu, pour chacun. Là, il nous dit qu'il peut appeler 12 légions d'anges. Dieu a besoin d'anges. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Qui sont-ils ? Qui sont ces anges ? Alors non seulement on va voir qui sont-ils, on verra pourquoi les anges, par qui les anges, pour qui, combien, pourquoi. On va essayer d'éclaircir un petit peu notre connaissance ou notre méconnaissance autour de l'ange, un ange, des anges. On verra comment ça peut aussi se lire et se voir dans nos vies. Est-ce que nous aussi, nous pouvons appeler des légions d'anges ? Alors déjà, qu'est-ce qu'un ange ? Donc il va y avoir beaucoup de questions ouvertes par rapport à ça. On va essayer d'en apporter quelques explications. Les anges sont des esprits administrateurs au service de Dieu et pour sa gloire. Dieu les envoie pour nous servir en grâce, la plupart du temps sans même que nous nous en apercevions. Ah, donc il y a déjà une notion qui se dégage, visible ou invisible. Ils sont les porteurs d'un service que Dieu leur confie, et nous n'avons pas, nous, humains, à nous préoccuper des anges. Chacun a sa place. Alors, d'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? Dans Colossiens, chapitre 1, au verset 16, « Car en lui, Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc ils ont été créés par Dieu lui-même, et donc par proximité, ils connaissent les plans de Dieu. Quelle est leur nature ? Quelle est la nature d'un ange ? Comment est-il ? Comment on pourrait le décrire ? On pourrait dire déjà qu'ils sont comparables à des esprits. On a plusieurs récits dans la Bible, et c'est vrai qu'on n'y prête pas forcément attention. Mais il y a plusieurs récits dans la Bible, notamment quand on fête Noël, on parle des anges, peut-être sans le savoir, sans avoir fait attention, mais on parle des anges. Tiens, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé à Noël ? Et puis là, dans Actes au chapitre 8, au verset 26, Un ange du Seigneur va et s'adresse à Philippe. Il lui dit, lève-toi et va vers cet endroit, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc Philippe a bien entendu ce que cet ange lui a dit. Alors l'a-t-il vu ou pas? Mais il a entendu. Parce que s'il n'avait pas entendu, aurait-il agi? Serait-il allé à l'endroit que l'ange lui avait indiqué? Donc Philippe se lève, il part, et il croise un Éthiopien, souvenez-vous, un eunuque, ministre de la reine Candace, reine d'Éthiopie. C'est pas un nomade lambda. Et en plus, il est surintendant, premier ministre, de tous ses trésors. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, et il lisait la Bible. L'Esprit dit à Philippe, donc l'ange reste avec lui, l'accompagne, et lui dit, avance et approche-toi de ce char. Dans le début de l'histoire, Philippe ne savait pas ce qu'il devait faire, plutôt ce qu'il devait dire ou est-ce qu'il devait rencontrer quelqu'un. Non, l'ange lui dit, va dans cette direction, prends ce chemin. Et l'ange l'accompagne et lui dit, voilà, maintenant tu vas parler à cet homme. Et là, on connaît la suite. Philippe va s'adresser à cet Éthiopien, ce ministre, et lui dit, est-ce que tu comprends les Écritures? Et lui, il répond, non, je ne saurais si personne ne m'explique. Donc l'ange s'est servi, je fais le geste, mais bon, on ne l'entend pas, mais entre guillemets, il s'est servi de Philippe pour aller annoncer la bonne parole à ce ministre éthiopien. Et là, la suite, la conséquence, c'est qu'il l'a baptisé. Les anges, ils ne se marient pas, ils ne meurent pas, ils ne sont pas sexués, ils n'ont pas d'attributs sexuels. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu chapitre 22, verset 30. Et dans Luc 20, on a une autre illustration, illumination. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ces anges, à qui obéissent-ils? On le voit, ils sont au service de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Donc les anges sont, on verra au travers des différentes illustrations, quelle est leur mission? Ben là, peut-être dans le verset, peut-être une protection. Si quelqu'un m'attaque, est-ce que tu ne penses pas que je pourrais appeler 12 légions d'anges pour venir me protéger? Là, dans l'illustration qu'on vient de voir, l'ange parle à Philippe pour l'envoyer en mission. Et tout à l'heure, on en revient à Noël, l'ange va voir Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte. Et en même temps, un ange est allé voir Élisabeth pour lui dire « tu seras aussi enceinte ». Et l'ange dit à Joseph, pas de bêtises, Dieu gère. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais imaginons un peu l'attitude de Joseph qui découvre que, sans avoir consommé son mariage, sa future épouse est enceinte. Dieu a envoyé ses anges, ou son ange, est-ce que c'était le même, on ne sait pas, mais le message est passé à toutes les personnes concernées. Les anges exécutent les jugements de Dieu aussi contre les méchants. Dans Genèse, au chapitre 19, au verset 12 et 13, ils sont même appelés les hommes, quand vous relisez l'histoire de Lot. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Ils vont l'avertir. « Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Les anges sont aussi le bras armé de Dieu. Et dans 2 Rois, chapitre 19, au verset 35, c'était la guerre. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette guerre? Cette nuit-là, l'ange, singulier, l'ange de l'Éternel, toujours, c'est pas l'ange tout seul de sa propre autorité, l'ange de l'Éternel, sortit, frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. L'ange exterminateur. Ça vous fait penser à quoi d'autre, l'ange exterminateur? En Égypte. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez, pour être protégé, le peuple d'Israël avait reçu comme information de mettre du sang sur les linteaux de la porte afin que lorsque l'ange exterminateur passerait, il ne serait pas atteint. Parfois, donc c'est un peu... Enfin, ça vous a peut-être choqué, un ange, mais quand on dit un ange, c'est un... Souvent, les anges, on représente des tout petits bébés, quoi, hein, avec une auréole, genre... Mais un ange ne peut pas faire de mal. Hein, c'est l'ange exterminateur. L'ange de la mort. Ah oui, on se fait des idées, des stéréotypes, c'est comme le tout petit enfant Jésus. Je me souviens, lors d'une rencontre, je parlais justement de Noël et je disais, le problème que l'on véhicule et qu'on entretient, c'est que Jésus, il reste à l'âge d'un an, en fait. Parce que à Noël, on fête sa naissance, et puis l'année d'après, on refait sa naissance, et l'année d'après, on refait sa naissance, et ainsi de suite. Et on a l'impression que Jésus, c'est toujours le petit bébé dans son berceau. Et là, l'ange, donc, on voit déjà plusieurs facettes, plusieurs aspects. Visible, invisible. On ne parle pas de sexe pour les anges. Ils protègent, ils envoient, ils tuent, ils exécutent les ordres de Dieu. Et puis dans Apocalypse aussi, s'il y a peut-être pas très longtemps que vous avez relu Apocalypse, vous avez, alors les anges, vous en avez. Moi je pensais pas, franchement, quand ce message, j'étais amené à parler de ça, je dis mais les anges, mais j'étais étonné de voir combien de fois il est question des anges dans la Bible. Et vous avez vu, on en parle depuis l'Ancien Testament. Et les anges par-ci, et les anges par-là, c'est des hommes, c'est des envoyés, c'est des destructeurs, c'est des protecteurs. Hein. Je veux bien insister aussi sur le fait que c'est pas que des destructeurs, ok? C'est des protecteurs. Et puis après, dans le Nouveau Testament, on parle encore des anges, et le récit de la Bible se termine par les anges. Alors, Apocalypse, Apocalypse 16, si vous voulez vraiment relire, je ne vous demande pas de relire toute la Bible ni tout Apocalypse, mais au moins le chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, l'obéit à l'ordre de Dieu. Il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et puis le second, et on voit ce qui se passe. Et le troisième, on voit ce qui se passe. Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par sa grande chaleur. Mais malgré ça, ils blasphémèrent le nom du Dieu à l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Même prêt à ce qu'on lui coupe la tête, l'homme rejette encore Dieu. Mais c'est son choix. Parce que Dieu nous a créés libres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Plus d'eau. Je ne sais pas si vous entendez en ce moment, mais il y a une catastrophe humanitaire qui est en train d'éclater sur toute la corne de l'Afrique. Il y a une famine, non seulement il y a une famine, mais il y a une sécheresse. Quand l'eau tarit, c'est un drame. Donc les sept anges ont obéi l'un après l'autre à leur Dieu. Et le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait, c'est accompli. Mais les anges aussi ne sont pas toujours que prêts à partir sur l'ordre de Dieu. Ils sont aussi là pour le louer, pour servir Dieu. Psaume 148, louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. Dans Ésaïe, au chapitre 6, il y a même une description de séraphins. Il y a aussi des séraphins qui louent, qui crient l'un à l'autre. Ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Puis dans Hébreux, au chapitre 1er, verset 13-14, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Il n'y a pas d'ange assis à côté du trône de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Ils n'ont pas accès au trône. Ça, c'est réservé à ceux qui sont élus. Les anges sont des serviteurs. Vous comprenez leur place un peu ? Ce ne sont pas de super autorités. Ils n'ont aucune autorité sur Dieu. Et vous allez voir jusqu'où ça va aller. Alors peut-être qu'on le verra aujourd'hui ou la prochaine fois, mais il y a une phrase clé. Par rapport à ce que je viens de dire. Toujours dans Hébreux, chapitre 1er, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Sont-ils puissants ? Est-ce qu'ils sont puissants, ces anges ? Mais d'où leur vient leur puissance? Puisqu'ils sont serviteurs. Ils viennent de Dieu. Un ange tout seul, dans l'exemple de tout à l'heure, aller traverser un camp ennemi et faire 185 000 morts, pouvait-il le faire de par sa seule autorité? Ils ont des pouvoirs guérisseurs. Souvenez-vous, je pense qu'on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Quand on parlait de Jésus, on a raconté, on a parlé ensemble de la piscine. Un ange venait remuer, agiter la surface de l'eau. Un ange. Visible ou pas visible, un ange. L'eau frémissait. Et le premier qui se jetait dedans était purifié. Mais ce n'est pas un ange qui a touché la langue du muet pour le faire parler, c'est Jésus qui a guéri les lépreux, c'est Jésus. Ils ont des pouvoirs d'exécution. Comprenez bien la différence entre les pouvoirs des anges et le pouvoir de Dieu. Donc Jean, chapitre 5, vous pouvez relire cet épisode de la piscine. Et les questions d'anges. Un seul ange extermina tous les hommes forts et vaillants de l'armée de Syrie, assemblés contre Ézéchias. Un seul ange. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp des rois d'Assyrie tous les hommes vaillants, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Il a été tué par ses fils. Un seul ange prendra Satan et l'enfermera dans l'abîme. Ah, Satan, c'est un ange aussi. On parlera de lui. Apocalypse, chapitre 20, enfin. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Par l'autorité de Dieu. Ce n'est pas un jour un ange qui a été chercher une clé ou qui a trouvé une clé et qui a dit « Tiens, c'est moi qui l'ai. » Puis on voit qu'aussi il y a des anges parfois qui luttent avec les humains. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime. » Les anges et Satan s'affrontent. Et ceux qui sont avec Satan aussi s'affrontent. Le chef de Perse résiste 21 jours à l'envoyé de Dieu. Qui a dû être aidé par un autre ange. Dans Daniel, chapitre 10, il me dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. J'ai invoqué Dieu et Dieu a envoyé un ange. » Les anges, envoyés par Dieu pour diverses raisons, pour divers motifs, des exécutants de Dieu. On va un peu terminer sur leur nombre. Combien sont-ils? J'en sais rien. Des myriades d'anges. On parle souvent d'un ange, ou de deux anges, ou des hommes, donc combien? Deux, trois. Et puis 12 légions d'anges, voilà, ça commence à faire quelques centaines, quelques milliers, et des myriades d'anges. Dans l'Apocalypse, encore au chapitre 5, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et leur nombre, tiens, calculette pour la prochaine fois, une idée. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ça fait 10 puissance combien? Des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et pourtant, un seul ange est capable de tellement de choses par l'autorité de Dieu, qui lui vient de Dieu. Donc imaginez des milliers, des milliers, des myriades, de myriades d'anges. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Le cœur des anges, c'est déjà des myriades, des dizaines de milliers. Dans Luc chapitre 2, et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste. On a l'impression aussi nombreux que les étoiles du ciel. Louez-le, vous toutes ces armées. Quand les anges chantent, ça doit être une chorale fantastique. Ça nous donne une dimension que je ne sais même pas vous décrire. Une dimension. Cette multitude. Alors là, je pense la prochaine fois, parce qu'on n'a pas le temps de continuer. On en a déjà évoqué un petit peu, mais est-ce qu'ils peuvent avoir une apparence humaine? Est-ce qu'ils ont rencontré Jésus? Et puis, quelles sont leurs missions pour nous croyants? Plus précisément. Et quelle est leur relation avec l'Église? Est-ce que là, maintenant, il y a un ange parmi nous? Ou des anges parmi nous? Est-ce qu'en sortant de ce lieu, il y a des anges dehors? Je vous laisse méditer pendant la semaine, puis on essaye de savoir des myriades de myriades et des milliers de milliers combien ça peut faire. Je compte sur vous, hein? Que Dieu bénisse sa parole.